Bonsoir, l'actualité de ce jeudi 8 novembre dans les Alpes du Sud et à la une, le procès des sept de Briançon. Sept femmes et hommes comparaissent pour aide à l'entrée de personnes en situation irrégulière et en bande organisée. Des centaines de personnes se sont rassemblées devant le palais de justice pour les soutenir. Une manifestation a également eu lieu dans les rues de Gap. Pierre Denis est décédé à l'âge de 67 ans. Il avait été conseiller général du canton de l'Argentière-l'Abbessée, mais aussi maire de Saint-Martin-de-Querrières. Les enseignants de l'éducation nationale et le personnel administratif monteront au créneau ce lundi. 2650 postes d'enseignants dans les collèges et lycées devraient être supprimés l'an prochain par le gouvernement. Plus de 6000 cartes de poilus haut alpins numérisées. Elles seront mises en ligne dès demain sur le site des archives du département des Hautes-Alpes. Une véritable galerie de portraits. En sport, 6 joueurs des Rapaces de Gap sont en équipe de France. 3 seniors et 3 U20 participent au tournoi des 4 nations à Minsk et Budapest. Mais pour commencer, un homme a perdu la vie ce jeudi à Valbel alors qu'il effectuait des travaux forestiers. L'alerte a été donnée peu avant 14h pour cet homme de 22 ans. Une dizaine de secouristes a été mobilisée. Gendarmes secouristes du PGHM de Josy avec l'hélicoptère de la SAC de Digne-les-Bains, médecins du SAMU et sapeurs-pompiers. Une enquête est ouverte et menée par la gendarmerie. Plus de 850 personnes mobilisées ce jeudi devant le tribunal de Gap pour le procès des sept de Briançon. Un procès qui a débuté ce matin. Éléonora, Bastien, Théo, Mathieu, Juan, Benoît, Lisa comparaissent pour aide à l'entrée de personnes en situation irrégulière et en bande organisée. Le 22 avril dernier, ils auraient fait partie du cortège de plus de 150 manifestants ayant forcé le barrage de gendarmerie de Montgenèvre avant de prendre la direction de Briançon. De l'air, ouvrez les frontières, voilà ce que l'on pouvait entendre aujourd'hui devant le tribunal. Une mobilisation qui a également donné lieu, Cyrielle Michard, à une récupération politique.
C'est au compte-gouttes que les manifestants sont arrivés sur le parvis du palais de justice à Gap. Compte-gouttes car plusieurs d'entre eux, venus en bus depuis Grenoble ou bien encore Marseille, sont restés bloqués le matin même dans des contrôles de gendarmerie. Une mobilisation dans le calme et une ambiance plutôt bon enfant avec des stands de nourriture, de boissons disposés aux abords, voire même des ateliers de peinture pour les enfants. Un rassemblement qui s'est laissé aller parfois à quelques poussées d'agacement, notamment quand le tribunal a demandé à de multiples reprise de faire moins de bruit pour la tenue des débats.
Maintenant, tu manifestes en silence. Tu fais des R manifestations.
Là, c'est Perrine, la maman de Lisa, l'une des prévenues, qui est intervenue pour rappeler les consignes.
La présidente nous a annoncé que si on ne pouvait pas s'entendre, et c'est difficile de s'entendre dans la salle d'audience, on a du mal à entendre le procureur, on a du mal à entendre les avocats, ils n'ont pas de micro. Elle suspend la séance et elle fait une séance à huis clos. Donc je suis juste venue dire d'essayer de faire un peu de silence.
Alors si Perrine soutient le combat de sa fille, elle s'est au fond assez peu exprimée sur son procès et celui des six autres de Briançon. Un procès sur toutes les lèvres des manifestants venus les soutenir, comme Mélissa.
Ils ont été arrêtés et on les accuse d'être des passeurs en bande organisée. Je trouve ça complètement ridicule. Et donc du coup, je suis venue les soutenir ici parce qu'ils ont besoin de soutien déjà moral. Je trouve que c'est vraiment important de défendre ces causes-là.
Un rassemblement sur fond de récupération politique, il faut bien le dire, car apparaissant rapidement dans le cortège, c'est Philippe Poutou, l'ancien candidat à la présidentielle pour le NPA, s'est exprimé.
On voit bien une militarisation d'ailleurs des frontières et puis une répression judiciaire et policière contre les militants. Et donc nous, on combat ça et nous, on espère qu'il y a un rapport de force qui se développe et qui change la donne et qui permette à faire reconnaître ce droit tout simple de pouvoir aider des migrants. Puis même que l'État joue son rôle. L'État doit accueillir, doit donner les moyens pour permettre à ces gens-là de survivre. C'est une bataille politique de fond.
Le Parti communiste français avait également annoncé une intervention.
Merci Cyrielle. L'après-midi a été marqué par une manifestation dans les rues de Gap dès 15h et jusqu'à 16h30. 400 personnes étaient présentes. Le mot d'ordre, la demande de la relax pour les 7 prévenus. Écoutez-les.
Pourquoi vous défilez aujourd'hui ?
Solidaire. On ne peut pas punir la solidarité. C'est pas possible. Donc on est là. On est venus depuis Toulouse. En fait, on est tous dans la même galère. On est tous solidaires, on est tous des délinquants solidaires aujourd'hui. Et donc, voilà, on est présents. S'ils sont condamnés, on sera condamnés aussi.
Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui ?
On demande à l'accueil des personnes qui veulent venir en France ou en Europe. Un accueil digne. Et que tout l'argent qui est mis dans la répression et dans les centres de rétention serve à accueillir.
Là pour des gens qui sont juste humains et on vient juste pour un peu d'humanité et on a juste envie que les consciences s'éveillent et qu'on
Des propos recueillis par Olivier Milleville. Notez qu'à 18h, environ 200 personnes étaient présentes devant le palais de justice, selon le commissariat de Gap. La secte du Mandaron condamnée à réhabiliter un pan de colline du Verdon. L'affaire du Mandaron, une histoire qui dure depuis plus de 20 ans. Installée au-dessus du village de Castellane depuis 1969, la secte avait en 1992 bâti le temple pyramide. Des travaux démesurés et engagés malgré l'annulation du permis de construire en 1995 par le Conseil d'État. Depuis la remise en état du site et les réparations financières étaient réclamées, notamment par les riverains. Dans son arrêt rendu le 30 octobre dernier, la Cour d'appel de Grenoble a condamné la secte du Mandaron à remettre en état la colline du Verdon et a estimé que les travaux pour cette construction avaient été réalisés non seulement en contravention avec le plan d'occupation des sols, mais aussi au mépris des règles d'urbanisme. La secte a maintenant 6 mois pour l'ouverture du chantier et 30 mois pour sa réalisation. Carnet noir avec le décès de Pierre Denis, ancien conseiller général du canton de l'Argentière-l'Abbessé. Il est décédé à l'âge de 67 ans. Il avait siégé entre 2011 et 2015 dans les rangs de l'opposition de la collectivité départementale. Il avait également été maire de Saint-Martin de Carrière de 2008 à 2014. Candidat à sa propre succession, il avait été évincé de sa propre liste par 4 membres de sa liste et 5 membres du conseil municipal. Pompier des Hautes-Alpes, elle a été nommée au grade de chevalier de l'Ordre national du Mérite. Cette distinction a été remise hier par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, à la caporale Anne Girard. Elle est sapeur-pompier volontaire au centre d'incendie et de secours des Écrins depuis juillet 2013. Elle s'est notamment distinguée lors de l'été 2017 au cours de la campagne des feux de forêt, année marquée par de très nombreux incendies dans le sud de la France. Dans l'actualité également, 100 de personnes s'est mobilisée hier devant le centre AFPA de Gap. Ils portaient tous le même message, ce centre de formation ne doit pas fermer ses portes. Pour rappel, la décision a été prise fin octobre par la direction nationale, alors que le groupe fait face à des difficultés financières et une perte d'exploitation de plus de 70 millions d'euros estimée pour l'année 2018. 1541 postes en CDI doivent être supprimés d'ici la fin de l'année 2020, dont 186 en région Provence-Alpes Côte d'Azur et 21 sur le site de Gap. Un site qui fait partie des 3 qui fermeront leurs portes en région. Mais pour Gilbert Grossard, formateur en génie climatique, les chiffres sont avant tout positifs pour le devenir de l'AFPA de Gap.
Depuis 10 ans, nous avons une réduction d'effectifs programmée parce que nous avons sous-traité, par exemple, une partie de la restauration, du gardiennage. Nous avons regroupé des sites qui étaient détachés comme Maligier. Donc nous sommes passés de 52 emplois à moins de 36 emplois, ce qui a réduit nos charges. Ce qui fait que nous sommes toujours en positif. Nous avons un EBE qui est positif en 2016 de 1 700 000 euros et en 2017, 1 300 000 euros, 360 000 exactement. Donc le centre de Gap n'est pas négatif.
La formation de Gilbert Grossard permet la sortie vers l'emploi chaque année de 95% des effectifs des stagiaires. Alain Hainaut est lui responsable d'exploitation chez Sogeta. Après avoir lui aussi été stagiaire de l'AFPA, désormais c'est dans ce centre qu'il recrute. Mais demain, avec la fermeture, il se pose la question de la main-d'œuvre. Écoutez-le.
Ça représente des gens qu'on est susceptible d'embaucher qui sont très compétents. Donc dans tous les domaines, enfin que ce soit en niveau 4 ou en niveau 3. Et d'ailleurs, on en a embauché quelques-uns quand même en sortie. On prend souvent des stagiaires aussi.
Vous, pour votre entreprise, si demain l'AFPA ferme, qu'est-ce qui va se passer? Où trouver la main-d'œuvre?
Bien, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué parce que là, on avait comme des interlocuteurs qui pouvaient nous aiguiller sur des gens qui n'étaient pas forcément en formation, mais qui étaient déjà sortis de formation depuis quelques années, qui étaient peut-être en recherche d'emploi. Et donc maintenant, on aura plus cette proximité surtout.
Un dossier que vous pouvez retrouver sur alpe1.com. Eux aussi seront mobilisés, mais ce lundi, les enseignants et le personnel administratif de l'éducation nationale appellent à une journée d'action face aux suppressions de postes annoncées et au projet de budget 2019. Dans les Hautes-Alpes, ce sera à 10h devant l'inspection académique, à 10h30 dans les Alpes de Haute-Provence. Les syndicats de l'éducation nationale appellent à la mobilisation pour protester contre la suppression de 2650 postes d'enseignants dans les collèges et lycées l'an prochain par par le gouvernement et 400 dans l'administration. Catherine Denis, enseignante du premier degré, co-secrétaire départementale de la FSU 05.
Ce qui va conduire à des effectifs plus chargés dans les classes, à des postes partagés pour les enseignants du second degré de plus en plus, alors qu'ils le sont déjà beaucoup, ainsi que pour les enseignants du premier degré. Et pour les postes administratifs, c'est-à-dire des pertes de postes dans la gestion des personnels, des agents, etc., au niveau des inspections académiques. Ce qui veut dire que le service public de proximité va devenir de moins en moins existant dans le département du 05. Ce que l'on craint, c'est qu'il y ait des regroupements d'écoles de plus en plus, qui vont conduire à des déplacements d'enfants de plus en plus importants, une heure de déplacement pour des enfants de 3 à 4 ans. Vous voyez les conséquences que ça peut avoir.
Et notez que les candidats s'inquiètent aussi du manque d'AVS sur le département des Hautes-Alpes. Selon eux, une centaine d'enfants n'auraient pas d'AVS d'auxiliaire de vie scolaire. Ils veulent dire stop aux pesticides de synthèse en France. Nous voulons des coquelicots, c'est le nom de ce mouvement lancé par Fabrice Nicolino, journaliste à Charlie Hebdo, et François Veillerette, porte-parole de l'association Génération Future. Un appel national relayé également dans les Alpes du Sud par la Société Alpine de Protection de la Nature et par le collectif Coquelicots Haute-Provence qui invite à des rassemblements chaque premier vendredi de chaque mois à 18h30. Une pétition a également été mise en ligne. Elle recueille pour le moment 335 000 signatures sur le site Nous voulons des coquelicots. Mais l'objectif est plus grand, obtenir 5 millions de signatures afin que le gouvernement n'ait plus le choix d'entendre les citoyens, annonce Patrick Fabre, des politiques qui, selon lui, sont étouffées par le poids des lobbies.
Je pense en effet que les lobbies sont tellement puissants par rapport au domaine politique que finalement, le Grenelle de l'environnement, en effet, avait prévu en 10 ans une baisse de l'utilisation des pesticides de 50%. Et finalement, on relève qu'il y a eu, au contraire, une augmentation de cette utilisation des pesticides de 20%. Ça prouve bien que les politiques sont totalement inopérants en la matière. Et donc, on estime que seuls les citoyens, s'ils se mobilisent suffisamment, pourront faire en sorte que les choses changent. Alors, il est bien évident qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, rayer d'un coup de plume l'utilisation de ces pesticides. Mais il y a d'autres solutions. Il y a des agriculteurs qui pratiquent un autre type de culture et qui s'en sortent bien, même si, au départ, ça n'est pas facile. Et je pense que là, les pouvoirs publics pourraient faire en sorte de les aider au maximum pour se reconvertir vers l'agriculture biologique.
Des propos recueillis par Alex Cam. Je vous en parlais dans les titres. 6389 cartes de poilus haut alpin ont été numérisées et seront mises en ligne à l'occasion du centenaire de l'armistice de la guerre de 14-18. Ces cartes de ces anciens combattants de la Première Guerre mondiale seront disponibles dès demain midi sur le www.archives.haute-alpes.fr. Pour le département des Hautes-Alpes, il s'agit de documents rares et précieux qui constituent une véritable galerie de portraits des poilus hauts alpins. Ces nouveaux documents numérisés complètent les fonds d'archives déjà accessibles en ligne. Prenez vos dispositions sur les routes. La circulation sera coupée du 19 novembre au 7 décembre sur la route départementale 955 à Saint-Julien-du-Verdon, hors agglomération. Le département des Alpes de Haute-Provence indique que pour mettre en sécurité cette route, des travaux doivent permettre de purger d'importantes masses rocheuses. La circulation sera totalement coupée de jour comme de nuit, la semaine et les week-ends. Une déviation sera mise en place par l'ARN 202 et la RD 4085. Et puis du sport et Romaric Ponce, 6 hockeyeurs gapensés sont en équipe nationale cette semaine.
6 joueurs des Rapaces de Gap représentent le hockey tricolore durant cette trêve internationale. 3 avec l'équipe senior et 3 avec l'équipe des moins de 20 ans. Chez les hommes, Romain Gutiérrez, Raphaël Faure et Morin Bouvet sont en Biélorussie à partir de ce jeudi à Minsk pour le tournoi des 4 nations. Premier rassemblement de la sélection tricolore sous l'ère Philippe Boson. Ce soir, la France affrontera la Biélorussie justement à 18h15 avant de se frotter à la Lettonie vendredi et la Slovénie samedi. Chez les moins de 20 ans, Théo Sarliève, Jules Gallet et Charles Schmitt sont quant à eux en Hongrie à Budapest, là aussi pour le tournoi des 4 nations où ils affrontent la Slovénie, l'Italie et la Hongrie. Un tournoi qui intervient intervient un mois avant les championnats du monde de Division 1 où les Français tenteront de jouer la montée en élite. Toujours en hockey sur glace, les Diables Rouges de Briançon enregistrent l'arrivée du défenseur tchèque Tomáš Prokop pour pallier les nombreuses blessures de ces derniers jours à la ligne bleue. Jason Seed sera notamment absent 3 mois après avoir été touché aux adducteurs. Thibaut Farina de 2 à 4 semaines, blessé sur le haut du corps, de blessures qui s'ajoutent à celle de Bruno Baldris, tenu à l'écart des matchs depuis plus d'un mois maintenant. Tomáš Prokop qui s'entraînait jusque-là avec une équipe de Division 2 tchèque. Enfin, puisqu'on parle des Diables Rouges, notez que le natif de Briançon et ex-Diable Florian Chakiashvili et ses Dragons de Rouen ont tenu la dragée haute mardi soir à Salzbourg en 8e de finale de la Coupe d'Europe de hockey, la CHL. Les deux équipes se sont quittées sur un score de parité 3 partout sur la glace de Lille-la-Croix. Tout se jouera donc lors du match retour le 20 novembre en Autriche pour une éventuelle qualification historique en quart de finale de la compétition.
Merci Romaric.
Retrouvez et réagissez à l'actualité des Alpes du Sud à